On a un cours sur la prière, donc je vais commencer ça à chaud, comme ça. On va tout de suite prier, puis on va ensuite regarder le contenu du cours. Ça va laisser le temps aux gens qui prennent place là, d'arriver. Mais ouvrez les yeux si vous marchez, s'il vous plaît, pendant la prière. Seigneur Jésus, merci pour cette matinée que tu nous donnes. Merci pour ce printemps qui arrive, Seigneur, samedi prochain, officiellement dans les dates. Mais déjà, Seigneur, cette semaine, en fin de semaine, avec la fonte des neiges, avec la chaleur qui vient, Seigneur, mon Dieu, donne-nous la sagesse de ne pas enlever trop rapidement le fil, le foulard, Seigneur. Ce matin, je me sentais téméraire à manches courtes, mais Seigneur, je te prie pour que tu puisses garder la santé de chacun. Et Éternel, je te demande que tu puisses ouvrir nos cœurs ce matin, que tu puisses nous parler ce matin. Et Seigneur, que ce soit toi qui sois... celui qui est glorifié et celui que les personnes ici entendent et non moi. En ton nom, Jésus. Amen.
Bonjour.
Un bel accueil, c'est le fun, ça. Toujours content de vous voir, Mme Paradis. Tantôt, je ferai un petit câlin ou un petit bec, OK? C'est après, c'est bon? Promis, c'est bon. Alors, on est rendu à la troisième section de notre livre « La prière », qui est notre livre de référence de Tim Keller. Et plus particulièrement, on traite du chapitre 8, « La prière par excellence ». Donc, il y a eu une intro, là, on a rendu au neuvième cours, on traite le chapitre 8 aujourd'hui. Et juste me présenter, je m'appelle Luigi, je suis un des pasteurs, un des anciens ici à Longueuil. Ce que je vois dans la salle, la majorité me connaissent, mais juste pour être certain quand même, et pour les enregistrements, je vais quand même me présenter. Je suis le pasteur qui est responsable à temps partiel des familles à l'espoir ici. Donc, c'est un rôle que Dieu a mis à cœur, autant à moi qu'aux anciens, de pouvoir développer. Pour l'instant, je travaille juste deux jours pour l'Église à ce niveau-là. Premièrement, avec la jeunesse le vendredi soir. On a une superbe jeunesse. J'en ai une belle gang qui est là, qui a une rangée complète ou presque. Là, fait que c'est le fun de vous voir. Ça, c'est pas mal tous mes leaders en formation qui sont là. En fait, la moitié. On est vraiment contents d'avoir un beau groupe. On a aussi un autre 8-9 responsables jeunesse. J'ai vu tantôt Yana aussi, que vous allez voir peut-être ce matin, qui est une de nos leaders jeunesse. Et puis, en plus des adolescents, j'ai la responsabilité des classes pour les enfants aussi. Donc, on a un cours pour les ados présentement, on a une garderie, mais j'aime mieux dire un temps ensemble pour jouer pour les enfants de 4 à 11 ans. Et puis, on a toujours l'occasion d'essayer de faire une vidéo, de montrer l'Évangile et tout ça. Et après ça, à 10h30, là, on a 4 groupes qui sont là ici pour les enfants de 0 à 12 ans. Et prions que Dieu suscite suffisamment de nouveaux professeurs pour qu'on ait un cinquième groupe. Juste le groupe des 4-8 ans, souvent, sont entre 20 et 30. Donc, c'est quand même assez énorme. Et on voit les bébés qui sont nés durant la COVID arriver dans ce groupe-là. Il est arrivé un dimanche il y a l'année passée où que juste les 2-3 ans, il y avait 23 enfants de 2-3 ans seulement. Donc, ça, c'est un des éléments dans lesquels je suis impliqué. J'ai vraiment la grâce. Éventuellement, j'aimerais m'occuper des jeunes adultes, m'occuper des couples, m'occuper des familles, d'éducation et tout ça. Mais une chose à la fois, faut bien gérer son temps. Et j'ai aussi le privilège d'être le pasteur qui est responsable de Sorel-Tracy. Et autant, la semaine prochaine, on va avoir des baptêmes ici, mais à Sorel, on va avoir 2 baptêmes à la fin du mois, le 30 mars. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir être présent et encourager l'Église là-bas. On voit une Église qui est en train de croître et tout ça. Puis finalement, j'ai quelques heures par semaine où je m'occupe de coordonner les 12 églises de la Rive-Sud de Montréal à se rassembler une fois par 4 à 6 semaines, juste pour collaborer ensemble, dont 2 églises anglophones avec lesquelles on a le privilège de travailler. Donc ça, c'est comment j'occupe mon temps. Et puis, tout ça, ça fait l'équivalent de 4 jours parce que je n'ai pas encore l'énergie d'arriver à 5 jours semaine. Donc, priez pour ça. C'est un sujet de prière que Dieu me donne toute l'énergie pour être capable de vraiment retourner à un 5 jours semaine. Et comme vous le savez, servir dans l'Église, c'est souvent pas limité au nombre d'heures, à compter le temps, mais c'est souvent... On a une rencontre, on a quelqu'un, on veut prendre soin, on veut se voir, on a des choses à régler, on a des réunions à organiser, comme la réunion annuelle qui s'en vient, des budgets. Hein? Joël Neves, on s'est parlé plusieurs fois cette semaine, notre trésorier, on a bien travaillé ensemble. Il va se reposer bientôt, là, dans quelques semaines. Dans quelques jours, en fait, il va partir en vacances, bien mérité. Et puis, ça fait que, comme beaucoup de gens de l'Église servent en plus de leur travail, mais nous aussi, comme pasteurs, en plus de ce qu'on a officiellement, on ne compte pas. On rajoute 10, 20 % du temps juste pour servir et être bénévole aussi, comme vous l'êtes. Pour nous, c'est comme un privilège de imiter ce que vous faites et d'être des modèles aussi en même temps. Donc, je reviens à mon cours. Aujourd'hui, on est rendu à la prière par excellence, la prière par excellence. Et puis, Tim Keller, ce qu'il a fait pour ce chapitre-là, il a principalement été chercher des références auprès de trois patriarches, initiateurs de l'Église. Premièrement, il s'est référé beaucoup à Augustin, qui, lui, est né en 354 après Jésus-Christ, donc seulement quelques siècles, et il a vraiment influencé toute l'Église chrétienne pendant près de 800 ans. Et puis, un des livres, en fait, le livre qui est cité pour Augustin, c'est celui qui écrit l'explication du sermon sur la montagne. Donc, quand on regarde la prière par excellence, ça vient de Matthieu 6, donc ça fait partie du sermon sur la montagne. Un autre, qui est patriarche, qui est une référence, c'est Luther. Luther, donc ça fait un peu plus de 500 ans, 1483 à 1546. Lui était un réformateur, celui qui a été le premier protestant à protester contre ce que l'Église catholique avait ajouté à la parole de Dieu, toutes ces traditions-là qui étaient non bibliques. Et puis, c'est vraiment un modèle. Et puis, le livre qu'on utilise, qui est utilisé pour faire référence, ça s'appelle « Le grand catéchisme ». Puis à chaque fois que moi j'entends le mot catéchisme, je pense quand j'étais enfant à l'école primaire, il y a ceux qui allaient dans les cours de catéchèse, puis ceux qui étaient protestants, qui eux faisaient la morale. Hein, ça vous dit quelque chose peut-être pour certains. Donc, on avait soit qu'on n'allait pas au cours de catéchèse, soit on allait au cours de morale, mais c'était comme mal vu pour les protestants, les évangéliques, d'aller au cours de catéchisme. Mais en fait, ce mot-là, c'est tout simplement la base de nos croyances et tout ça. Donc, ça a été très utilisé par l'Église catholique, mais avant tout, c'est tout simplement les fondements de notre foi. Et puis, on a eu le privilège dans l'Église ici de faire pendant un an de temps 52 vérités de catéchisme, même à mémoriser. On l'a fait avec les enfants aussi, où ce que c'est toute notre base. Merci, Monique, de distribuer les notes de cours. Plusieurs, comme moi, l'ont reçu par Internet hier soir avec l'application Church Center. Mais moi aussi, j'aime beaucoup encore le papier, donc j'ai mis des notes aussi sur mon papier. Donc, sentez-vous à l'aise de faire ça. Les notes, je ne les lis pas à 100 %, j'ai fait beaucoup de références, mais c'est pour un rappel et puis vous allez pouvoir l'utiliser. Enfin, troisième patriarche, Jean Calvin. Donc, Jean Calvin est né à peu près 500 ans, il y a 500 ans, en 1509. Et lui, comme francophone, c'était un réformateur aussi très important qui a eu toute une influence. Et puis, de lui est venu aussi le calvinisme. Donc, je ne vais pas en parler ce matin, mais c'est des bases, des fondements de l'Église évangélique, de l'Église protestante, qui sont encore aujourd'hui très, très importants pour la base de notre foi. Entre autres, ça fait référence aux cinq sola, si vous avez quelques références. Et lui s'est fait persécuté en France et est allé se réfugier en Suisse. Donc, autour, si je ne me trompe pas, des environs de Genève. Et encore aujourd'hui, on a des vestiges de son influence et de sa présence en Suisse. Et entre autres, il y a la référence qu'on va utiliser, qui est utilisée dans ce livre-là, pour parler de la prière par excellence. C'est son livre qui s'appelle « L'institution de la religion chrétienne ». Donc, c'est cité à quelques reprises et c'est vraiment son œuvre principale. Je vais avoir probablement l'occasion, début juin, d'aller visiter Genève pour la première fois. Ma femme a le privilège de pouvoir être conférencière. Et pour la première fois, elle ne sera pas juste conférencière pour des infirmières et des spécialistes en santé au Québec. Elle a été invitée pour les infirmières francophones au monde, aller en Suisse pour donner une conférence, en fait deux conférences, deux ateliers dans une conférence. Et puis, puisque son employeur paye son transport, son hébergement, et puis moi, j'ai juste le privilège de pouvoir payer l'avion puis d'être avec elle présent là. Donc, c'est à Lausanne, mais c'est à peu près à une heure là, de Genève. Donc, priez pour ça, que Dieu ouvre les portes, que je puisse avoir l'occasion. Et vous connaissez notre pasteur Yannick, maintenant il enseigne une fois par année ou une fois aux deux ans à l'Institut de Genève. Donc, c'est vraiment toute une belle place pour aller redécouvrir les fondements du protestantisme. Donc, le plus grand enseignement de Jésus sur la prière par excellence, c'est celle qu'on appelle le Notre Père. Donc, je vais reprier maintenant, je vais prier plusieurs fois dans le cours, et puis pour juste mettre en pratique et tout ça, mais on va vraiment parler à Dieu, être en relation, en contact avec Dieu. Donc, prions encore. Merci Jésus, parce que tu nous as enseigné dans Matthieu 6, quand tu as fait ton sermon sur la montagne, comment on devrait prier. Et tu nous as dit de parler à notre Père qui est aux cieux, et que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, et aussi que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu as rajouté la requête de qu'on puisse demander d'avoir notre pain quotidien et de pardonner nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu as prié et tu l'as mis en pratique toi-même de qu'on ne puisse pas entrer, de ne pas être soumis à la tentation, mais d'être délivré du mal. Et pourquoi tout cela? Parce que c'est à Dieu qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, il y a toutes sortes de manières d'utiliser la parole de Dieu pour prier. Et cette prière-là, c'est probablement la prière qui était le plus redit, le plus verbalisé dans toute l'histoire des deux derniers millénaires. Et c'est important, lorsqu'on regarde cette prière-là, de ne pas focusser sur le mot à mot. Donc, je l'ai un peu dit dans mes mots tantôt, mais j'étais quand même assez littéral, c'était volontaire. Et Jésus nous a donné cette prière-là pour qu'il nous serve de modèle, tout simplement. Et il faut faire attention parce que si on l'utilise seulement pour le répéter, ça devient un acte religieux. Et malheureusement, quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, c'est que ce n'est pas à force de répéter le Notre Père que nous allons être plus pardonnés ou que nous allons être tout simplement pardonnés. Donc, on a déjà entendu, hein, fais cinq fois le Notre Père et ta confession que tu viens de faire va effacer le péché que tu as fait. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ça c'est un mensonge. Et puis, juste à titre d'exemple, Luc, le médecin Luc, qui écrit aussi un évangile, lui-même aussi a relaté cette même prière-là. Et ça va à la deuxième page. Dans Luc 11, il a juste pris trois versets, versets 2 à 4, et il a pris seulement que quelques extraits de, de cette prière-là. Il dit, bien, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc, quelque chose qu'on voit, c'est que ce modèle-là, faut évaluer, il faut considérer, il faut porter attention à chacune des phrases. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour ceux qui participent au plan de lecture qu'on fait en Église, donc lire la Bible en deux ans, hier, on était dans Jean 5. Et dans Jean 5, je vais vous lire une partie qui était écrite. C'est où ça? Jean 5, verset 18. Jésus appelait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Donc, nous enseigner d'adresser cette prière, d'adresser nos prières à notre Père qui est aux cieux. Et puis, lorsque moi, je vois comment est appelée cette première partie là, de la prière, cette adresse-là, ça fait penser à nos lettres qu'on a. Donc, j'ai eu le privilège de recevoir cette semaine une carte postale de mes amis qui font de la musique, qui étaient en visite en Allemagne. Et puis là, j'avais des timbres allemands qui étaient là, puis une photo, et puis des mots qui étaient là. Puis, hey, c'est parti de l'Europe, et c'est arrivé en mes mains, cette lettre-là. Ça a pris un certain temps, puis wow! Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois qu'on reçoit des lettres, c'est de plus en plus rare. Fait que c'est comme, ah! À part si c'est des choses officielles, gouvernement, des factures et tout ça, là. Mais quand c'est des choses qu'on ne s'attend pas, c'est le fun, honnêtement. C'est vraiment spécial. Et puis, aujourd'hui, on est tellement dans les courriels qu'on oublie le côté papier versus le côté électronique. Et cette adresse-là, notre Père, c'est lorsqu'on prie, c'est seulement dire à qui on envoie cette lettre-là ou cette parole-là ou cette demande-là qu'on fait. Donc, on le fait à Dieu. Et le timbre qui est utilisé, c'est le sang de Christ. Donc, je pensais à ça ce matin encore. Je disais, ah, j'ai jamais entendu cette expression-là. Je l'ai probablement dans mon subconscient déjà lu quelque part. Donc, je ne pense pas que c'est à moi qui revient cet exemple-là. Mais la seule manière de pouvoir s'assurer que notre message, notre lettre, notre prière se rend à Dieu, c'est par le timbre du sang de Christ. Et Jésus, lui qui est notre frère, a appelé Dieu son Père. Et ce n'était pas quelque chose de commun. Tellement que lorsqu'il l'a fait dans Jean 5, les croyants, en fait, les religieux de cette période-là, les pharisiens, sadducéens et autres, ceux qui appliquaient l'Ancien Testament, ils ont appelé au scandale. Ils disaient, ça ne se fait pas. Dis, si tu appelles Dieu ton Père, tu te fais égal à Dieu, tu es dans la même famille, tu as hérité de qui il est. Et c'est exactement ça qu'il voulait faire, Jésus. C'est exactement ça qu'il voulait mentionner, c'est qu'il était et qu'il est et qu'il sera pour toujours Dieu lui-même et qu'il il est parfait comme le Père Céleste est parfait. Un des patriarches, Luther, a dit par rapport à cette adresse-là, ça nous oblige d'abord à nous souvenir de notre situation et de prendre conscience que notre position en Christ, le fait que maintenant on peut être appelé frère de Jésus, fils de Dieu, avant d'entrer dans la prière et de converser avec Dieu. Donc, ça nous rappelle que c'est possible à cause de cette position-là, de cet héritage, de cette adoption-là que Dieu a fait de nous. Et il continue, il dit, « Tu nous as enseigné à te considérer et à t'appeler notre Père à tous. Alors, tu pourrais être un juge sévère, alors que tu pourrais être un juge sévère envers nous. Dieu est autant accessible qu'amour que juge. Et pourtant, malgré sa toute puissance, sa toute grandeur, on va le voir dans une autre section, il est accessible et on peut s'approcher de lui. C'est assez incroyable. Il n'y a pas grand monde présentement qui peut s'approcher du nouveau premier ministre ou du pape ou de certains présidents qui sont des gens très glorieux dans notre monde. Encore moins dire, Monsieur Legault, c'est mon père. Hein? On a une Annick Legault qui est dans l'église ici, puis des fois on lui demande, t'es-tu la même famille? Non, c'est pas la même famille. Donc, on n'a pas accès par elle au premier ministre du Québec. Alors, tout ça, ça nous rappelle, pour cette section-là, que Dieu nous aime comme un père. Et je veux prier déjà pour cette première partie-là et te dire, Seigneur Dieu, que merci. Merci pour le sang de ton Fils et merci qu'à cause de sa perfection, à cause qu'il a payé à notre place, nous sommes maintenant ceux qui croyons en toi, en ta bonne nouvelle, en ton sacrifice, ta mort, ta résurrection, Jésus. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous pouvons, Père, t'appeler Papa. Oui, Jésus, tu as dit toi-même dans le jardin de Gethsémané avant d'être crucifié, « Abba, Père, hein, Papa, Père, toutes choses te sont possibles. Et merci Dieu parce que c'est possible de pouvoir accéder à toi, de pouvoir te parler et de ne plus passer par les sacrifices d'animaux et par le temple, les souverains sacrificateurs. En ton nom, Jésus. Amen. Ensuite, que ton nom soit sanctifié. On l'appelle la première requête. Mais c'est une requête qui est une d'adoration. Donc, on demande que Dieu soit sanctifié. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sanctifié? Et puis, le Larousse dit que c'est quelque chose de sacré, quelque chose de noble, d'exceptionnel ou qui est au-dessus de tout. C'est assez général. En fait, c'est trop général pour moi. Donc, j'aime bien des fois aller voir un peu, c'est la seule fois que je vais le faire aujourd'hui dans le cours, dans les mots originaux. Donc, être sanctifié, ça vient du mot « agiazo ». Et puis, c'est traduit, pas juste par être sanctifié, mais rendre saint, purifié, consacré. Donc, c'est des synonymes qu'on peut voir, qu'on peut lire, qu'on peut comprendre lorsqu'on lit « être sanctifié ». Et honnêtement, le Dieu, le seul et unique Dieu, notre Dieu, est trois fois saint. Donc, comment on peut prier, avoir une requête de demander à Dieu qu'il soit sanctifié? C'est-tu vraiment possible? Vous voyez dans vos notes là, que des fois, je mets des références bibliques et je ne mets pas à chaque fois le texte. Si vous voulez approfondir, vous pouvez aller voir, comme par exemple, Ésaïe 6:3 fait référence au Dieu trois fois saint. Mais pourquoi faire cette requête-là, puisqu'il est déjà saint éternellement? En fait, Jésus veut certainement nous enseigner qu'on doit apprendre à le voir, à voir Dieu, à le voir agir et à parler avec lui comme celui qui est parfait et pur. Donc, que ton nom soit sanctifié auprès de notre perception, nous qui sommes impurs. Lorsqu'on parle à Dieu, qu'on se rappelle à qui on parle et à quel niveau il est. Et puis, souvent, on a tendance à oublier cette perfection-là de Dieu. C'est possible de le faire. Jésus veut qu'on se le rappelle. Et puis, Augustin a écrit pour expliquer « Sois sanctifié, sois glorifié dans toutes les nations comme tu l'es parmi nous. » Donc, lui, c'est comme ça qu'il interprétait. Puis, je trouve que c'est vraiment une belle interprétation de que le nom de Dieu soit sanctifié, en fait, qu'il soit glorifié, qu'il soit connu, pas juste dans notre vie personnelle, mais aussi, pas juste dans l'Église, mais aussi parmi toutes les nations de toute la terre, que la gloire revienne à Dieu. Prions pour cette section-là. Merci, Jésus, parce que tu nous enseignes à honorer ton Père, à t'honorer toi. Et par cette prière, par cette requête-là, tu nous rappelles que toi seul es saint et que nous-mêmes, nous voulons aspirer à ta sainteté jour après jour par une sanctification continue, mais aussi que par toi, Jésus, nous sommes déjà saints, déjà reconnus comme purs aux yeux du Père. Et c'est pour ça qu'on a accès au Père. Merci, Seigneur, pour cette requête-là. Et merci de nous donner, Seigneur, les auteurs comme Piper, comme Augustin, pour nous aider à comprendre un peu mieux ce que tu voulais nous dire. En ton nom, Jésus. Amen. Ensuite, que ton règne vienne. Lorsqu'on parle de règne, on parle de roi, on parle de seigneur. Hein, on le voit dans Apocalypse 19:16. Et Dieu nous a créés pour qu'on lui donne complètement et entièrement toute la gloire que mérite sa majesté, lui qui est le souverain de tout l'univers. Donc, il faut se rappeler que c'est le roi des rois, que c'est celui qui mérite tout honneur, toute gloire. Et lorsqu'on prie que ton règne vienne, c'est aussi, notre réponse doit être par, si c'est toi le roi, Dieu, mais moi je vais être ton serviteur, je vais être à ton service et je vais t'obéir. Ce que tu vas dicter, ce que tu vas donner comme information, comme direction dans ta parole, mais je veux l'appliquer et l'appliquer cela avec joie. Jean Calvin a dit qu'il considérait que le royaume de Dieu venait de deux façons. Par le Saint-Esprit, qui corrige et enlève les désirs de la chair. Donc, hein, le Saint-Esprit, lorsqu'on est croyant, lorsqu'on devient, on accepte le sacrifice de Jésus, on va dire aux enfants que tu acceptes Jésus dans ton cœur. On aime moins en moins cette expression-là, parce que c'est même pas possible par nos propres forces de l'accepter. Et Jésus dans ton cœur, c'est pas si clair et précis que ça comme expression. On préfère leur dire que Jésus devienne le roi, le maître, le papa de ta vie, celui qui va diriger ta vie. Et puis, lorsqu'on est sauvé, l'Esprit-Saint vient en nous. Et ce qu'il fait, l'Esprit-Saint, c'est qu'il va nous rappeler lorsqu'on n'obéit pas, lorsqu'on fait le mal. On a une conscience humaine qui fait ça, mais notre conscience humaine, on peut l'étouffer. On peut ne pas l'écouter et on peut essayer de la manipuler un peu pour, on appelle ça soulager sa conscience ou pour justifier que finalement, ce n'est pas si pire que ça ce qu'on fait. Mais l'Esprit-Saint, lui, qui est une des trois personnes de Dieu, qui est parfait, qui est pur lui aussi, il a les mêmes attributs que Jésus, hein? Il est aussi la vérité. Donc, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement, c'est une manière de nous corriger. C'est une manière de nous aider à marcher selon les voies de Dieu et enlever le péché qui est en nous. Et avec cette conviction-là de péché, l'Esprit-Saint amène toujours le désir de vouloir se repentir. Et c'est souvent un fruit qu'on voit dans la vie des croyants. En fait, c'est la majorité du temps, c'est observable auprès des autres. On ne voit pas le cœur, nous, mais lorsque quelqu'un a un regret d'un péché qu'il a fait, il dit « Ah, l'Esprit-Saint est probablement en train d'y parler. » Puis on voit que c'est vraiment un frère. Et puis on va l'aider on va l'accompagner, on va prier avec cette personne-là. Et autant nous, on a besoin, à chaque fois qu'on pêche, d'accompagnement, de prière pour nous aider à se détourner, se repentir de ce mal-là. Et il continue, Jean Calvin, il dit « L'autre manière, l'autre façon, c'est par la parole de Dieu qui infléchit et forme nos sens. Il s'agit donc d'une demande de seigneurie que Dieu étende ses pouvoirs royaux dans chaque partie de nos vies. Cela comprend nos émotions, nos désirs, nos pensées et nos engagements. » Prions maintenant. Seigneur Jésus, Esprit-Saint, Dieu Père, ta seigneurie, ton territoire est tout l'univers. Et ceux qui sont sous ton service, c'est toute l'humanité. Et Seigneur, c'est pas facile, naturellement, de vouloir te plaire, de vouloir t'obéir. On a tous cette individualité-là, cet orgueil-là qui souvent va prendre place dans nos cœurs, qui va prendre place dans nos vies pour que ce soit nous-mêmes qui s'assoyons sur ce trône-là de nos vies, sur ce trône-là de notre cœur, qu'on peut dire, et que nous-mêmes, on prend nos propres décisions, qu'on règne sur notre propre vie. Et ce n'est pas ce que tu veux. Oui, Jésus, tu veux que ton règne vienne dans nos vies, tu veux que ton règne vienne sur toute la terre, que tu sois reconnu. Et merci parce que lorsqu'on s'arrête aux nouvelles, lorsqu'on s'arrête à ce qu'on observe autour de nous, c'est clair que ton royaume n'est pas complet encore sur cette terre, qu'il est inachevé. Mais notre espoir, comme le nom de notre Église ici, c'est que ce qui va venir est tellement grand que c'est impossible de s'imaginer comment ton règne va être parfait, entier. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avec ton royaume qui s'en vient, les douleurs, l'injustice et la mort seront terminées. Et on a vraiment hâte à cela. Amen. Maintenant, que ta volonté soit faite. Donc, Luther dit lui-même, « Donne-nous la grâce de supporter de bon cœur la maladie, la pauvreté, le déshonneur, la souffrance et l'adversité de toutes sortes, et de reconnaître qu'à travers ce vécu, ta volonté divine crucifie la nôtre. Donc, hein, il fait référence à notre volonté versus la volonté de Dieu. Et un exemple que j'ai bien aimé dans le livre, que Piper relate, pas Piper, c'est Keller, hein? J'ai dit Piper toujours, mais c'est Tim Keller, excusez-moi. Je voulais rendre hommage à celui qui a écrit ce livre que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé lire ce chapitre. Et puis, il dit, on peut, lorsqu'on parle de volonté, prendre l'exemple d'une relation parent-enfant. Papa, garçon, entre autres. Et souvent, comme parents, on va donner des directives à nos enfants, donner des règles, donner des modes de fonctionnement dans la maison. Et puis, peu importe l'âge, souvent quand ils sont tellement petits, ce n'est pas toujours compréhensible. Ça va pourquoi il ne faut pas qu'ils touchent à une vitre qui est brisée. Il ne comprend pas, jusqu'à temps que s'il ose essayer, il va se couper. Donc, c'est assez évident pour nous, mais pour un enfant, il ne comprend pas toujours les raisons et les dangers de nos consignes. Et souvent, lorsque nos enfants vieillissent, ça arrive, j'ai deux enfants qui sont maintenant à l'âge d'adolescence, 12 et 15 ans, là, ils veulent comprendre. Mais ce n'est pas toujours possible de comprendre toutes les raisons pourquoi on leur demande de faire des choses. Et là, on est à la zone, pas du pourquoi ces choses-là existent, mais pourquoi tu me demandes de faire ça. Puis des fois, ça peut devenir une conversation qui peut escalader. Et puis, comme parents, on peut devenir irritant auprès de nos enfants. Les enfants peuvent devenir irrespectueux envers leurs parents. Donc, quand la Bible nous enseigne à avoir un respect et avoir de la douceur et puis de ne pas irriter nos enfants. Et Dieu nous donne toutes sortes de règles aussi, toutes sortes de modes de fonctionnement. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend, mais il y a encore des choses qui sont mystérieuses, qu'on ne comprend pas. Et ce qui est important dans tout cela, c'est d'apprendre à faire confiance. Et j'ai entendu, je ne suis pas rendu là, mais beaucoup de témoignages de jeunes, lorsqu'ils arrivent à l'âge dans la vingtaine, à l'âge de l'autonomie, l'indépendance, ils reviennent à leurs parents et disent « Merci pour les conseils que tu m'as donnés, pour la direction que tu m'as donnée. Merci parce que même si je ne comprenais pas aujourd'hui, je comprends un peu plus pourquoi tu m'as donné telle règle, telle consigne. » Et Dieu, c'est la même chose qu'il veut faire avec nous. J'aimerais qu'on lise Matthieu 7, 11, il va apparaître à l'écran. C'est aussi dans vos notes. « Si donc vous, qui êtes mauvais, » donc j'ai m'identifié en premier, « oui, je suis mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, lui qui n'est pas mauvais, qui est parfait, en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? » Donc, demandons à Dieu que notre volonté soit faite. J'ai mis une image, je ne sais pas si c'est assez grosse, là, mais il y a un autre verset qui parle qui va donner un serpent à son fils s'il lui demande du pain? Hein? Personne. C'est, à moins que tu aies mangé du serpent, mais ça, on va en parler avec Yannick Etier. Lui, c'est plus un carnivore. Il aime essayer des affaires. Moi aussi, j'aime essayer des affaires, mais ce n'est pas le but de de l'enseignement biblique. C'est que si ton enfant te demande quelque chose à manger, tu ne vas pas lui donner une roche. Tu ne vas pas lui donner quelque chose de mauvais. Tu vas lui donner quelque chose de bon. Mais Dieu, lui, va nous donner encore mieux. On veut croire que Dieu est notre Père et qu'il est digne de confiance. Et puis, vous savez, quand Jésus nous enseigne à dire que ta volonté soit faite, c'est lui-même a prié cette prière-là au Père. Et on voit la deuxième partie de Marc 14, 36. Tantôt, on a vu qu'il appelait Abba, Père. Maintenant, on voit la suite dans le jardin de Gethsémané. Jésus dit, « Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, que ta volonté soit faite. » Prions. Dieu, c'est pas toujours facile de comprendre, de connaître, de reconnaître ce que tu veux et quelle est ta volonté pour l'humanité, ta volonté pour notre pays, ta volonté pour notre ville, notre église, notre famille, notre propre vie. Et Seigneur, c'est pour ça qu'on te prie, qu'on te demande de nous éclairer. Oui, Seigneur, un verset me vient en tête, je pense que c'est dans Psaume 37. « Fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur veut. » Il me semble que c'est ça, Seigneur, c'est comme ça que je me souviens de ce passage-là, ce que ton cœur désire. Donc, Dieu, plus qu'on veut se rassembler à toi, plus qu'on veut se rapprocher de toi, plus tu vas nous montrer clairement ce que tu veux pour nos vies après. Aide-nous à grandir à ce niveau-là. Et Seigneur, merci parce que tu nous entends, tu nous écoutes et tu veux notre bien. En ton nom, Jésus. Amen. On vient de voir les trois premières requêtes de cet enseignement-là que Jésus nous a donné. Et ces trois premières requêtes-là, Jésus nous a donné pour, premièrement, fixer les yeux, être centré sur Dieu, le voir lui en premier, et que souvent notre tendance d'être centré sur nous-mêmes, notre tendance de se voir en premier, le nombrilisme que nous avons, puisse être sanctifié et qu'on puisse vraiment arrêter de se regarder nous et regarder Dieu premièrement. Ça dit « sur le Seigneur pour faire sa volonté, on veut fixer les yeux et les besoins, les problèmes qu'on croit avoir, qu'ils soient détrônés pour laisser la place d'honneur à Dieu. Que nos besoins, nos problèmes ne soient pas ceux qui règnent sur notre vie, mais que Dieu règne sur notre vie. » Aujourd'hui, ce matin, on était rendu dans notre plan de lecture à Jean 6. Et Jean 6 nous parle de pain. Donc, je l'ai lu hier parce que je voulais être en avance, puis je voulais être capable de voir s'il y a quelque chose qu'on pouvait regarder aujourd'hui. Et puis, dans Jean 6, autour du verset 48, 49, 50, Jésus dit « Je suis le pain qui donne la vie. » Et il dit « Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, lui Jésus, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Wow! Je trouvais que ça allait avec cette première requête-là qui est plus pour nos besoins à nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Hein, donne-nous notre pain quotidien. Dans le fond, lorsqu'on pense à ce qu'on vient de lire dans Jean 6, ça me fait penser à dans les Proverbes. Il y a une prière qu'on voit dans Proverbes 30. Et puis, cette prière-là, c'est à propos du contentement. Et ce contentement-là, lorsqu'on prie cette prière-là, ça va nous aider à éviter l'inquiétude et l'orgueil. Donc, je vais aller les versets 7, 8, 9. Donc, vous aviez à l'écran juste le 8. Ça dit, c'est au bas de la page 3, « Je te demande deux choses. Ne me refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. » Ensuite, donc verset 8, « Ne me donne ni pauvreté. » Et là, Augustin a rajouté, entre guillemets, là, entre crochets, « de peur que je t'en veuille, que je sois fâché parce que je suis trop pauvre. » Et il ne me donne ni richesse. Et encore là, Augustin dit, de peur que je t'oublie, que les biens de ce monde puissent enlever mon attention sur toi, Dieu, et porter mon attention sur des choses temporaires et éphémères. Et verset 9, ça dit, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel? Ou qu'en étant dans les pauvretés, je ne commette un vol ou ne porte atteinte au nom de mon Dieu. » Vraiment une belle prière dans les Proverbes. Ce n'est pas toujours des prières qu'on voit, c'est souvent des conseils, mais là, vraiment, « Je te demande deux choses. » Donc, est-ce qu'il parle à son fils ou il parle à Dieu? Moi, je vois ça comme une prière à Dieu. De toute façon, toute la parole de Dieu, c'est un enseignement, puis on peut le mettre en pratique dans la prière. Luther a dit qu'il voit une dimension sociale à la prière de nous donner le pain quotidien. En fait, manger chacun à sa faim implique une économie prospère. Hein? Il y a plus de 500 ans, ou presque 500 ans qu'il écrit ça. Il parle d'économie prospère lorsque chacun mange sa faim, le plein emploi et une société juste. Donc, chacun a des revenus pour pouvoir se payer de la nourriture et une équité, chacun de la nourriture. Par contre, l'exploitation abusive dans les affaires, le commerce et le travail est pour un ordre social juste et prospère. Donc, priez, pas par contre, priez contre l'exploitation, contre les abus et que tout cela puisse mener à un bon ordre prospère, un ordre social juste et la prospérité. Et pas dans le sens d'avoir l'évangile de la prospérité. Si je crois en Dieu, Dieu va me donner des bonnes choses. Donc, tu es mieux de croire en Dieu parce que là, tu vas pouvoir avoir des récompenses. C'est pas comme ça. C'est plutôt, lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, il y a des conséquences naturelles qui viennent que la justice est faite sur terre et que chacun peut avoir accès à son pain. Et encore aujourd'hui, ça me fait mal lorsque je pense particulièrement encore en Afrique, des gens qui n'ont qu'un seul repas par jour. Des gens qui doivent voyager pendant des kilomètres pour aller chercher leur eau de la journée et qui n'ont pas accès à l'eau courante ou à l'eau proche d'eux. Et on a encore du chemin à faire, même 500 ans plus tard que Luther a écrit, pour que cette prière-là soit accomplie. Je vais prier. Et dans cette prière-là, Seigneur, je te demande qu'on puisse être sensible à ce que tous puissent avoir accès à du pain. Oui, Seigneur, ça nous arrive une fois de temps en temps ici. En Occident, on est tellement riche, mais ça arrive quand même encore. Quelqu'un vient au bureau, quelqu'un vient dimanche matin et dit « J'ai faim. Est-ce que je peux avoir de la nourriture? » Et à chaque fois, Seigneur, que ça vient à moi, cette requête-là, tu me mets à cœur d'aller voir dans toutes les réserves, dans le sous-sol, dans les frigidaires, congélateurs, pour essayer de donner à cette personne-là assez de nourriture pour qu'elle puisse revenir ce mercredi suivant à Bouffe pour tous. Oui, Seigneur, ce qu'on fait ici, d'avoir de la nourriture pour tout le monde, c'est une bonne application de cette prière-là. Et c'est vraiment une application de ta parole. C'est vraiment biblique. Et je te prie que cette possibilité de nourrir les gens de notre communauté puisse aussi se répercuter jusqu'aux extrémités de la terre. Et que nous, les croyants, nous puissions être des agents pour que personne ne manque de nourriture, ne manque de pain et ne meure de faim. Toi seul sais comment cela est possible, mais je te prie de nous aider à faire ta volonté à ce niveau-là. Amen. Ensuite, autre section, deuxième requête personnelle, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, ça semble un peu conditionnel comme prière, mais prenons premièrement l'angle relationnel. Dieu lui-même est Trinité, trinitaire. C'est dans le temps d'Augustin là, qui ont confirmé, qui ont clarifié qu'est-ce qu'était la Trinité, donc juste un peu avant lui. Et puis, on le voit, là, entre autres, il y a plusieurs endroits dans la Bible qui font référence à la Trinité, entre autres dans Hébreux 9,14, Père, Fils et Esprit. Comme Église baptiste, hein, on cite Matthieu 28, « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est très clair. Et puis, puisque le Père, le Fils et l'Esprit sont en relation entre eux, mais il nous a créés aussi pour qu'on puisse être en relation avec lui et entre nous. Et je cite ici, là, je l'ai paraphrasé à ma manière, Genèse 1,26, c'est pas écrit à l'écran. « Puisque nous sommes créés à leur image, selon leur ressemblance, selon ce qu'il s'est dit. » Je l'ai formulé particulièrement bizarrement comme ça, parce que lorsqu'on regarde Genèse 1,26, il dit « faisons ». Donc, nous voulons faire l'homme, l'être humain, à notre image. Donc, le « faisons », c'est au pluriel, notre image au pluriel, notre ressemblance, et ils se sont dit cela entre eux, la Trinité. J'aime bien voir ces subtilités-là, puis dire « aïe, aïe, aïe ». Déjà, dès le premier chapitre de la Bible, on voit des morceaux relationnels que Dieu a entre lui. Et Lorsqu'on parle de pardonner, vous savez, la confession, la repentance, le pardon de nos péchés, les uns envers les autres et envers Dieu, c'est quelque chose qui est encore continuel, qui doit être exercé jour après jour, parce qu'on n'a pas encore atteint la perfection. Mais lorsqu'on demande pardon pour un péché qu'on a fait, ce n'est pas pour s'assurer qu'on soit sauvé. Lorsqu'on est chrétien, on est sauvé une fois pour toutes. Et le fait de confesser, de demander à Dieu, de demander aux autres pardon pour nos péchés, c'est tout simplement juste pour glorifier Dieu et voir, mettre en lumière, premièrement, le pardon que lui nous a offert et l'appliquer dans notre cœur, l'appliquer les uns vers les autres. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça. Est-ce que ça fait du sens? Oui. J'en ai un qui me dit oui. Merci, Mathieu. On se connaît assez bien. On fait du coaching ensemble. Je ne vais pas lire ce paragraphe-là, mais ce qui est important par rapport à cette requête-là, c'est que lorsqu'on pardonne, lorsqu'on demande pardon, ça nous éloigne de l'amertume et aussi ça nous éloigne de l'hypocrisie. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, mais poker face, vous connaissez l'expression? Donc, faire assemblant de « Oh, salut, ça va, tout est bien », puis en bout de ligne, dans ton cœur, tu as de la rancune ou tu n'aimes pas ce que l'autre, ton frère, ta sœur a fait, ce que cette personne-là n'a pas fait, des fois. Donc, il y a toutes sortes de choses. Et Calvin l'exprime bien et il dit « Si nous ne nous efforçons pas de tout notre pouvoir d'être de nouveau en bon terme avec eux, avec nos ennemis, d'éprouver paix, amour et charité à leur égard, de leur rendre service et de leur être agréable, c'est comme si nous demandions à Dieu, dans notre prière, de ne pas pardonner nos péchés. » J'aime la formulation qu'il en fait. Si on n'arrive pas nous-mêmes à pardonner aux autres, mais comment on peut croire que Dieu va nous pardonner nous-mêmes, ce qu'on fait, les péchés qu'on fait contre Dieu? Prions. Cette requête-là, Seigneur, est très personnelle. Encore hier, je partageais à mon épouse que je priais pour quelqu'un et que dans mon cœur, c'était difficile. J'avais quelque chose qui me dérangeait par rapport à cette personne-là et j'avais hâte que ce soit réglé. Et j'essaie de toutes sortes de manières, elle le sait, mon épouse, tu le sais, toi, Seigneur, de pouvoir entrer en contact avec cette personne-là, de pouvoir essayer de régler, d'être en paix avec lui. Et pour l'instant, c'est pas possible. Merci, Dieu, que tu m'as mis à cœur de pouvoir envoyer à cette personne-là un texto qui reflétait de l'amour que j'ai pour lui. Et puis, d'essayer de lui être agréable et d'être disponible pour cette personne-là, même si ce n'est pas réciproque. Oui, Seigneur, j'ai à cœur de prier maintenant pour notre frère Jonathan Bédard qui va être dans quelques minutes pour la dernière fois à son église à Val-des-Sources, dans le coin d'Asbestos, qui a dû donner sa démission, Seigneur, dans les dernières semaines. Et il me parlait avant-hier, il me parlait il y a deux semaines, que ce qu'il veut faire, c'est partager l'amour auprès de cette église-là, des frères et sœurs qu'il a, qu'il aura pour toute l'éternité en Christ, en toi. Et qu'il me demandait que Dieu puisse l'aider à ne pas être fâché contre ce que les gens ont dit contre lui, mais au contraire, qu'il puisse leur démontrer de l'amour. Merci pour notre frère Clément qui est avec lui, pour son ami Jean-Simon. Et je te prie, Seigneur, d'être glorifié ce matin dans cette église qui ont besoin de toi. Cette église-là qui se sont éloignées, Seigneur, de vérité biblique. Dans ton nom, Jésus, que je te prie. Amen. Faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Hein? Ça, c'était une version québécoise de Luc 6:31. Ensuite, une autre partie de la requête. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. J'ai mis quelques versions parce que... Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont appris le Notre Père dans l'Église catholique, peut-être juste à main levée, qui ont appris à peu près la moitié de la salle, un peu moins, le tiers. On a une culture catholique très forte au Québec. Et Le Notre Père, c'est une des premières choses qu'on apprenait par cœur lorsqu'on était dans l'Église catholique. Je dis « on », mais je n'ai jamais été là-dedans, mais c'est quand même une référence sociale encore présente aujourd'hui, une influence du catholicisme au Québec. Et en 2018, le pape a accepté que la version soit un peu changée du Notre Père. Ce n'est pas facile pour ceux qui ont appris ça depuis 50, 60, 70 ans, 80 ans, de changer la manière de le dire. Et puis, c'est un peu pour ça que je suis allé chercher dans toutes mes références la version, la nouvelle seconde révisée, parce que c'est elle qui est la plus proche des mots que l'Église catholique a choisi de changer, d'utiliser pour le nouveau Notre Père. Je vais vous laisser faire vos recherches pour la suite de tout ça, mais je trouve ça intéressant. Nous, comme évangéliques, on a plusieurs versions de la Bible et ça nous aide à comprendre un peu mieux comment peut être traduit la parole de Dieu et comment elle peut être comprise. Donc, qu'on dise « ne nous soumets pas à la tentation », c'est plus clair que « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Si on interprète littéralement, ça peut donner l'impression que c'est Dieu qui nous fait rentrer là-dedans. Et puis, c'est Dieu qui nous amène ces situations-là. Et puis, c'est important de comprendre l'intention de Dieu lorsque la tentation vient dans notre vie. J'essaie d'être clair, là. Dieu nous donne la tentation, l'épreuve, pour nous aider à ne pas y céder. Et puis, ça ne peut pas être une requête de demander à Dieu de ne pas être tenté. Donc, cette requête-là, ce n'est pas non plus vouloir dire « Dieu, s'il vous plaît, ne me propose aucune tentation, j'en veux pas. » Ça ne serait pas biblique. Dieu ne nous a pas promis qu'on n'aurait pas de tentation, ne nous a pas promis qu'on n'aurait pas d'épreuves, d'obstacles, de difficultés dans la vie. Et j'aimerais lire dans 1 Corinthiens 10, versets 9 à 13. Il y a juste la section 13 qui est à l'écran, mais je veux lire le passage au complet. C'est au bas de votre page 4. « Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux, c'est-à-dire le peuple d'Israël dans le désert, qui périrent par le serpent. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » Et là, le verset classique, mais j'aime le contexte avant. « Aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen de s'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Lorsqu'on cherche la croissance spirituelle, qu'on essaie d'avoir une certaine maturité, s'approcher de Dieu, on est de plus en plus conscient de nos combats. Et Dieu nous donne différentes manières de combattre le mal, le péché qui est en nous. Et une des manières, c'est aussi par l'Église, par nos frères. Donc, lorsque je suis un coach de certains jeunes qui sont plus nouveaux dans la foi, souvent, c'est un des versets qu'on encourage à apprendre par cœur, 1 Corinthiens 10, 13, puisque c'est une vérité et se rappeler que lorsqu'on a de la difficulté avec le péché, c'est possible d'avoir la victoire au péché. Augustin dit, par rapport à cette prière-là, ce morceau de prière, « La formule demande à Dieu de nous délivrer du mal qui subsiste en nous et de s'élever contre le mal extérieur, les forces malignes de ce monde, notamment nos ennemis qui veulent notre perte. » Donc, lorsqu'on parle de mal, ce n'est pas juste le mal personnel, mais c'est aussi le mal autour de nous. Et je vais prier, puis je vais faire référence au paragraphe qui est là dans vos notes par rapport à la prière. Dieu, on est conscient, on sait que le monde actuel est dominé par le malin, par le diable. Et Seigneur, toi, tu dois donner la force pour résister au mal, au malin. Et Jésus, tu as été un exemple pour nous dans le désert. Toi qui n'as pas besoin d'être tenté, tu l'as été pour nous montrer comment résister. Et cela, c'est par le jeûne, la prière et par ta parole, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour notre association d'églises baptistes au Canada, donc près de 600 églises qui ont la même confession de foi et qui définissent Satan comme un être angélique déchu, qui est à l'origine du péché et qui essaie de séduire le monde, qui accuse des croyants, qui utilise son pouvoir et sa présence réelle, quoique limitée, pour s'opposer à ton œuvre, Dieu, et qui, avec toutes les puissances spirituelles déchues, va être jeté un jour dans les temps de feu pour l'éternité. Des fois, ça peut faire peur un peu, mais c'est pour ça que Jésus, tu nous as demandé de prier cela, de résister au malin, de résister au mal. Et mon Dieu, merci parce que tu nous délivres, et merci pour Jésus, toi qui es plus fort que la conséquence du mal, plus fort que la mort, qui est ressuscité, et tu es plus fort que Satan. Et nous, comme croyants, on peut s'approprier ton nom, la puissance de ton nom, pour résister à ces tentations-là, résister au mal qui est en nous, résister à l'influence du monde. Et ton nom peut avoir la victoire sur tout cela. Merci, parce qu'avec toi, on est en sécurité. Amen. 2 Pierre 3,8 dit, « L'espoir est dans la finalité du mal promis par Dieu. Il tient toujours ses promesses. » Donc, dans le fond, je ne pense pas que c'est le verset. C'est un résumé du verset. C'est une référence pour dire comment Dieu tient ses promesses. Mais ça, c'est moi qui ai fait un résumé comme ça. Un jour, le mal ne sera plus là. Dernier morceau, on arrive à la fin du cours. « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. » Calvin a écrit que ce modèle de prière se termine par l'attribution, c'est-à-dire le pouvoir qu'elle a. Et de plus, cette puissance est éternelle et infinie. Donc, la vérité est que Dieu est puissant. Et nous avons alors l'assurance, là, c'est là vraiment Calvin qui dit, d'un ferme et tranquille repos, et nous voulons nous souvenir que rien ne peut arracher le royaume et le pouvoir et la gloire à notre Père céleste rempli d'amour. Ça me fait penser au verset qui dit, « Rien ne peut nous arracher de la main de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on est à lui pour toujours. » Et j'aime le mot « attribution ». Dans le fond, on est en train d'attribuer, de pointer à qui appartient la possibilité de répondre à notre prière et à qui appartient la puissance de pouvoir y répondre et à qui on doit adresser cette prière-là. En conclusion, quelque chose comme qu'on a vu même dans Genèse 1, c'est la même chose que Jésus nous a enseigné dans cette prière-là. Cette prière-là est au « nous ». Donc, « donne-nous ». Et à plusieurs endroits, on voit que c'est au « nous ». Et puis, lorsqu'on veut pratiquer cette prière-là, on a tout avantage à le faire de manière collective. Entre autres, le dernier mercredi de chaque mois, de venir en église, de venir prier ensemble. Et cela, à chaque fois que c'est possible. Lorsque j'étais en coaching avec Mathieu puis Toby vendredi en soupant, je disais, on ne prie pas assez, les gars. Oui, on a fait une prière accessoire pour la nourriture qu'on a mangée, mais on a à gagner à prier plus souvent et à chaque fois qu'on se voit. Puis on a terminé notre réunion par la prière. Et quand j'étais avec Jonathan Bédard au téléphone vendredi matin, lui m'a demandé, est-ce que tu peux prier, Luigi? C'est vraiment un modèle de prière, ce frère. Et à chaque fois que je vois un frère, même avec Denis Latour, avec qui je travaillais beaucoup comme diacre du bâtiment, on commençait des meetings business, mais souvent je disais, attends, on va prier avant. Ben, c'est vrai, on n'a pas le réflexe en affaires de dire, ah, OK, là, c'est important, on s'arrête, on parle du budget. Mais c'est important de le faire et Dieu veut qu'on saisisse toutes les opportunités. Donc, je termine là. Et j'ai mis une petite référence, je l'ai mis courte, là, un petit raccourci pour un cantique. On n'a pas le temps de le mettre, mais allez écouter ce cantique-là, qui est, dans le fond, c'est notre Père, mais écoutez-le dans un esprit de prière. Donc, que vous appreniez à le dire, méditer, et la musique aussi, c'est un autre outil que Dieu nous a donné pour mieux prier. Donc, merci pour votre attention, merci pour le temps, et puis j'ai vraiment hâte de voir la semaine prochaine, c'est moi qui vais enseigner le chapitre 9, et ça va être la dernière partie là, de cette troisième section du livre sur « Apprendre à prier ». Et puis, on va voir ce que l'est la prière, ce qu'elle exige, ce qu'elle offre et ce qu'elle induit, ce qu'elle procure. Donc, merci gang, puis je termine là parce qu'on a quand même beaucoup prié, fait que c'est correct de ne pas juste prier non plus absolument à la fin. On peut prier à tout moment et on peut le faire dans notre cœur aussi. Donc, bonne semaine, ça fait plaisir.